et à tous, bienvenue sur 48FM, il est 9h30. Tout de suite les titres avec Eleona.
13 décembre, nous commémorons aujourd'hui le tragique anniversaire des tueries place Saint-Lambert. Ce matin, nous accueillons sur notre plateau Dora, la sœur de l'une des victimes. Non à l'austérité, une manifestation en front commun se tient ce matin à Bruxelles contre les mesures antisociales du gouvernement Arizona. L'objectif, défendre les droits des travailleurs. Sur une note plus légère, c'est aujourd'hui la journée internationale de la raclette, décryptage du succès de ce plat iconique d'hiver en fin de ce journal. Le 13 décembre, cette date résonne encore douloureusement dans les cœurs des Liégeois. À cette date, en 2011, Nordine Amrani ouvre le feu sur la place Saint-Lambert, tuant ainsi 6 personnes et blessant 150 autres. Aujourd'hui, nous recevons Dora Belladj, sœur de Nathan Mehdi, l'une des victimes de cette fusillade. Bonjour Dora.
Bonjour.
Merci en tout cas infiniment d'être avec nous en ce jour qui doit être particulièrement chargé en émotions pour vous. Le mois dernier, la justice a rendu son verdict dans la plainte des familles victimes contre l'État belge. Le parquet a estimé que les pouvoirs publics n'ont commis aucune faute et ne peuvent pas être tenus responsables de la fusillade. Cette décision a poussé la famille de Pierre Gérouville à lancer une pétition que vous soutenez à 100% pour dénoncer les défaillances du système judiciaire. Elle a déjà recueilli plus de 10 000 signatures. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part des autorités belges en fait ?
Nous attendons qu'en fait, ils prennent conscience de ce qui s'est passé. Lorsqu'une personne est en liberté conditionnelle, il faut un suivi de ses conditions. Et nous voulons que concrètement des mesures soient prises afin que les personnes qui soient libérées en liberté conditionnelle respectent leur liberté conditionnelle. Toutes les conditions soient respectées totalement afin de protéger la société.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que la justice belge a appris de ses erreurs et a pris des mesures réelles quant au suivi des récidivistes et des personnes sous liberté conditionnelle ou pas forcément ?
J'estime que oui, il y a une avancée lorsqu'on... L'attentat, ce genre de faits ne sont pas récurrents. Donc oui, il y a eu peut-être des améliorations quant à la justice, mais nous estimons que ce n'est pas assez. Nous voulons une réforme concrète qui puisse forcer tout le monde. Enfin, peut-être qu'il y ait des nouveaux acteurs au niveau du monde judiciaire qui puissent mettre en œuvre d'autres modèles de surveillance, je ne sais pas. Je ne suis pas ministre de la Justice, mais nous aimerions que le ministre de la Justice nous entende, malgré que nous n'avons pas encore de gouvernement, et qu'il y ait des moyens qui soient mis en place afin que nous sentons tous en sécurité. L'arrêt de la Cour d'appel de Liège estime qu'il n'y a pas eu d'erreur de l'État dans notre affaire, ce que nous, là où nous pensons qu'il y en a eu énormément. Nous ne sommes pas d'accord. De mon point de vue de juriste, il y a certaines parties de cet arrêt que je peux comprendre. D'autres, en tant que petite sœur, que je ne comprends pas. En tant que petite sœur et en tant que juriste, j'estime qu'il est important de protéger notre société, qu'il est important qu'un citoyen ait foi en la justice. Et pour me permettre d'avoir foi en cette justice, justice où j'espère exercer un jour mon métier dans ce domaine-là. J'espère pouvoir travailler dans une justice efficace. Et pour moi, ça commence par pouvoir se remettre en question. Et si le ministre de la Justice peut nous entendre et prendre des mesures quant aux libertés conditionnelles et aux peines alternatives, afin qu'il y ait une surveillance à ce niveau-là, ce serait pas mal.
Et alors ce matin, comme chaque année, vous organisez un événement dans quelques heures pour contester la décision de justice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer ?
Oui, donc aujourd'hui à 11h, une chaîne humaine aura lieu sur la place Saint-Lambert. Il faut savoir que depuis le 13 décembre 2011 jusqu'à ce jour, chaque 13 décembre, nous organisons une commémoration devant la plaque à la place Saint-Lambert. Aujourd'hui, il y aura des discours des parents, de certains parents qui vont s'exprimer sur notre déception suite à la réponse de la cour d'appel. Il y aura une chaîne humaine afin de sensibiliser les gens à ce qui s'est passé pour que tout ceci n'arrive plus, pour qu'il n'y ait plus de petite Dora encore dans ce monde. Suite à ça, je ne suis pas utopique, mais je me dis que si on peut sensibiliser les gens, les sensibiliser à signer une pétition afin que ça ait plus d'impact au niveau politique, pour qu'il y ait une surveillance qui soit mise, ben, pourquoi pas. Donc c'est vraiment un événement pour sensibiliser les gens et un hommage à tous nos défunts.
Alors on imagine que cette journée doit être très très difficile pour vous et votre famille. Donc comment est-ce que vous vous sentez face à cet anniversaire tragique ?
Chaque année c'est très difficile parce que chaque année ça me rappelle tout ce que j'ai vécu. J'ai perdu mon seul ami. Donc c'est très difficile. Ce jour, on est énormément sensible en ce jour. Et d'autant plus cette année parce que l'arrêt de la cour d'appel marque un peu la fin du combat judiciaire. Parce qu'il n'y a pas de moyen, enfin j'estime qu'il n'y a pas de moyen d'aller en cassation. Donc c'est... S'il y a une erreur de procédure, ben on peut essayer de réformer l'arrêt, mais il n'y en a pas dans notre cas. Donc cette année, c'est très difficile parce que ça marque la fin du combat judiciaire, mais ça ne marque pas la fin de mon propre combat. Parce que j'estime qu'il y a moyen de faire certaines choses, tant au niveau politique et au niveau de ma vie, du coup, au niveau de ma carrière. J'espère pouvoir, moi, rendre justice aux personnes qui se trouvent dans la même situation que moi et pouvoir mettre ma pierre à l'édifice.
On est de tout cœur avec vous, pardon, et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et merci d'avoir répondu à nos questions et aussi pour ce beau témoignage que vous nous avez offert. Pour rappel, à 11h, une chaîne humaine sera organisée place Saint-Lambert en soutien aux familles des victimes. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Dans la suite de l'actualité belge, une manifestation en front commun est organisée ce matin à Bruxelles. Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant le palais de justice et une centaine de manifestants liégeois feront le déplacement. Jean-Marc Namotte, représentant syndical liégeois, nous détaille les revendications.
La majorité qui se dessine à Arizona est en train de négocier toute une série de modifications. Et dans ces modifications, il y a beaucoup de mesures qui sont néfastes aux travailleurs et aux conditions de travail. Et donc, nous voulons faire pression sur les négociateurs pour dire nos positions par rapport aux éléments qui sont en notre possession. On a décidé que tous les 13 du mois, il y aurait une action sur différents lieux ciblant les mesures gouvernementales pour expliquer aux gens concrètement, voilà ce que ça représente pour vous, parce que je pense que dans le discours actuel, tout le monde ne voit pas à quelle sauce il va être mangé.
La France devrait connaître son nouveau Premier ministre en fin de matinée. Emmanuel Macron s'était engagé à annoncer un nom dans la journée. Ce matin, il a reçu le président du parti Modem, François Bayrou. Le nom du centriste tourne depuis plusieurs jours comme potentiel successeur à l'éphémère Michel Barnier. L'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian aurait refusé le poste. Dans la suite des avancées en Syrie, les dirigeants du G7 se réunissent en visioconférence aujourd'hui. 5 jours après la chute de Bachar al-Assad, le G7 s'est dit prêt à soutenir une transition vers un gouvernement, je cite, « inclusif et non sectaire, respectant les droits des femmes et les minorités religieuses et ethniques ». Côté numérique, l'association des journalistes professionnels, l'AJP, quitte le réseau social X, anciennement Twitter, dès la fin de l'année. Une décision forte qui s'ajoute à celle prise par d'autres organisations comme la Fédération européenne des journalistes ou encore le Conseil de déontologie journalistique. Chelsea, comment peut-on expliquer un tel départ ?
Eh bien, depuis le rachat de X par Elon Musk en 2022, la plateforme a radicalement changé. Tout d'abord, on a la politisation de la plateforme qui affiche des positions pro-Trump. Ensuite, on a les algorithmes qui favorisent des discours polarisants et minimisent la modération. Tout cela a conduit à une hausse notable de la désinformation et une hostilité grandissante envers les médias et les journalistes. Pour l'AJP, ces dérives sont incompatibles avec ses valeurs démocratiques et sa mission de défense du journalisme professionnel.
Et pourquoi certains médias choisissent-ils de réduire ou de quitter cette plateforme en fait ?
Alors il y a un autre constat de l'AJP. L'engagement sur X, même pour une organisation suivie par 15 000 abonnés, est souvent faible ou nourri de haine. À l'instar de médias comme 48FM, Le Vif ou encore Médor, qui ont déjà réduit leur présence sur cette plateforme, l'AJP préfère se concentrer sur Facebook, Instagram, LinkedIn et maintenant Blue Sky. Certains médias ont décidé de quitter la plateforme X. Le Guardian, grand quotidien britannique suivi par quasi 11 millions de personnes, a annoncé qu'il suspendait ses publications. Il juge la plateforme toxique et accuse son propriétaire d'influencer le discours politique, notamment pendant la campagne présidentielle. Et dans la foulée, d'autres journaux ont pris la même décision, comme le suédois Dagens Nyheter, l'espagnol La Vanguardia et en France les groupes régionaux Ouest France et Sud-Ouest. Cependant, ces médias laissent leurs journalistes utiliser X comme un outil de veille.
Et est-ce que Blue Sky pourrait devenir le nouvel Eldorado pour les journalistes ou simple effet de mode ?
Alors c'est difficile à dire pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que le paysage numérique du journalisme est en pleine mutation. Les médias doivent s'adapter à des plateformes en constante évolution et à des audiences toujours plus fragmentées. Blue Sky pourrait offrir une alternative prometteuse, mais son succès dépendra de son adoption par les professionnels et le public, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des journalistes. Visibilité, interactivité et protection contre les abus en ligne. Pour l'instant, l'engouement reste à surveiller.
Merci Chelsea. Place au sport avec Laura. Hier a été une belle soirée pour les clubs de football belges.
En effet, Anderlecht poursuit son rêve européen après son match d'hier soir. Les Mauves, actuellement 3e du championnat de Belgique, ont décroché une victoire précieuse, 2-1, face au Slavia Prague, une victoire qui les rapproche un peu plus de leur objectif continental. En Europa League, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 également contre l'OGC Nice. Les Bruxellois comptent désormais 8 points et sont bien partis pour accéder au barrage de la compétition. Toujours en football, le Standard se déplace demain au Berkot pour cette 18e journée en Pro League. La prudence s'impose.
Et la Belgique connaîtra ses adversaires aujourd'hui pour la Coupe du Monde 2026.
Oui, les Diables Rouges figurent parmi les têtes de série. La phase finale de cette compétition se déroulera aux États-Unis, au Canada et aussi au Mexique.
Et est-ce qu'on a des nouvelles des mondiaux de natation en petit bassin ?
Le Liégeois Lucas Envaux a terminé 4e sur le 400 mètres en nage libre avec un record de Belgique en 3 minutes 36, effaçant son ancien record de 3 minutes 37 établi en novembre dernier à Gand.
Merci Laura. C'est la journée internationale de la raclette aujourd'hui, un plat qui séduit toujours petits et grands. Julien est allé à la rencontre des Liégeois pour comprendre ce succès.
Pour les visiteurs du marché de Noël, pas de doute, la raclette fait toujours l'unanimité.
Du bon fromage, des amis, de la bonne charcuterie.
J'adore la raclette.
La recette de sa popularité, ce n'est pas que du bon fromage suisse ou savoyard. Chez la Valaisanne, restaurant de la place du marché spécialisé dans les fromages fondus depuis 40 ans, on a trouvé l'ingrédient magique.
Il y a ce côté convivial, on est tous là autour d'une même table. Les gens sont un petit peu en recherche de ça, c'est du partage. Même en dehors de chez soi, surtout sans prise de tête.
Une convivialité et un réconfort d'un moment entre amis pour oublier les tracas du quotidien.
Dans notre monde actuel où on est avec nos œillères, il faut avancer. Les petits moments comme ça, c'est aussi de pouvoir souffler, partager.
Indémodable depuis les années 70 et le premier appareil familial, la raclette se décline selon les modes d'aujourd'hui. Végétarienne, végane ou chic et raffinée. Elle s'immisce même en entreprise. Antoine et ses collègues sortent d'une raclette.
Un team building.
La chaleur de l'hiver que l'on peut retrouver toute l'année.
Toute l'année, il faut pouvoir assumer de manger une fois du fromage par 30 degrés, mais toute l'année on a notre carte de spécialité et il y a des gens qui viennent l'été aussi, rien que pour ça.
C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve mercredi prochain dès 13h pour le Studio Bus des Masters en Journalisme.